Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de June and C par en live. Salut July!
Salut June, salut tout le monde!
Aujourd'hui, on vous emmène en voyage dans l'histoire, on vous emmène au plus profond de l'enfer.
Avertissement, tout ce qui sera dit sur ce film est entièrement vrai.
Nous sommes d'une objectivité absolument totale, et si vous ne me croyez pas, vous pourrez toujours aller consulter la liste des critiques de films sur Allociné, qui a été quand même nominée pour le Navet d'Or, hein, faut le dire.
Oui, et après avoir eu 3 bidets d'or, pire film, pire acteur, pire réalisateur.
Il a été aussi nommé dans le... Alors, j'ai perdu le nom, mais je crois que c'est le Nanar du Routard, le Routard du Nanar, voilà. Oui, ça existe, apparemment. Faut le savoir. Donc, vous avez compris qu'on allait vous présenter un film de prestige.
Et quand un film dans lequel Ed Wood tenterait de faire un remake de Braveheart en Bulgarie.
En Bulgarie, ouais. Et quand je vous aurais dit que le rôle principal est tenu par Christophe Lambert, voilà. Non, ce n'est pas méchant.
Non, mais qu'est-ce qu'on s'est tapé comme barre en voyant ce film? Faut dire ça, quand même.
Bon, alors, à tous les gens qui vont se demander, parce que vous allez vous poser la question, je le sais, si j'avais des intentions suicidaires, si j'étais en mode dépressif. Non, tout est de la faute de July. Sachez-le, c'est de ma
oui,
faute.
Oui, et j'assume entièrement.
Voilà, et sachez que j'ai énormément souffert parce qu'il m'a imposé le visionnage de ce film. Voilà. Donc, j'apprécierais votre compassion en commentaire. Donc, nous voilà partis.
Et moi, j'aimerais bien la leur aussi, déconne pas, je l'ai vu ce film avant de te l'imposer.
T'as fait ça tout seul, toi. T'étais tout seul dans ton armure, quoi. On peut rien pour toi, mon gars. T'as vu ça à l'insu de ton plein gré, quoi.
Non, même pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête de voir ce film.
Ouais, bah, on va en reparler de ça aussi. Donc, nous vous offrons une plongée dans la grande histoire de France. Et pour parodier certains d'Allociné, je dirais que, ben, voilà, les Américains avaient Braveheart, ils avaient Gladiator, et nous on avait Vercingétorix.
Oui, voilà, c'est un peu ça.
Mon cher July, je ne sais pas par où commencer, et comme je suis une grosse rascasse, du coup, je vais te demander de nous faire le pitch.
Gauloise, Gaulois! Nous sommes en 58 avant Jésus-Christ. Et sachez que Jules César est à la tête de ses légions romaines et envahit la Gaule qu'il a par ailleurs. Refusant de se soumettre à César, Celtile, le tribu de la chef des Arvernes, est brûlé publiquement et tué par une flèche en même temps, enfin non après, puisqu'il meurt 2 fois dans le film, hein, il faut le savoir. Il est tué sous les yeux de son jeune fils, qui sera Vercingétorix. De sa VO Vercingétorix. Voilà. Il est alors recueilli par une druidesse guerrière qui l'éduque au pouvoir magique et au maniement de l'épée. Et il décide de se venger. Il découvre alors qu'il y a un rôle trouble de César et il est aidé de ses lieutenants, dont Vincent Moscato, dans le rôle du Gaulois Moscatos. Vercingétorix décide donc de bouter hors de Gaulle l'envahisseur romain. Oui, alors voilà, on tentait de faire le coup de Jeanne d'Arc, mais avec Vercingétorix. Et du coup... Ben, ça finit mal, hein, parce que ça finit Porte d'Orléans, hein, parce qu'il y a Alésia à côté.
C'est ça.
Et voilà, et il faut pas oublier non plus Gutuart, qui est joué par Max von Sydow quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il foutait là, celui-là, enfin, qui joue un autre druide. Et voilà, bon bref, ça finit par Alésia. Il finit par se rendre avec cette magnifique phrase de César. L'éclat de ma victoire fait peser plus encore les invisibles défaites de mon passé.
Voilà, phrase que j'ai absolument pas comprise, mais je pense que j'étais déjà sérieusement lobotomisée.
Mais c'est là attention, j'ai décidé que je plaçais 8 ou 9 citations de Vercingétorix dans ce podcast.
Ouais, bah comme ça, au moins, on est sûr de perdre des gens en route. Bon, eh bah écoutez, les enfants, on va essayer de prendre ça par un bout, parce que moi, déjà, je vais vous le dire honnêtement, je n'ai rien bité.
Moi non plus.
J'ai pas compris un broc de ce qu'il racontait. On arrive au début, parce qu'on va commencer par le scénario quand même, parce que le scénario, il vaut un César, un Oscar. Alors, pour vous résumer, on a un mélange entre Braveheart, Gladiator, Jeanne d'Arc. Donc déjà, ça envoie du lourd. Un peu de la légende d'Arthur dedans, parce qu'il y a plein de druides qui se baladent. dont celui d'Halluciné qui l'a sorti, celle-là, il m'a beaucoup fait rire. Je pense que ça allait très très bien dans le contexte. Un Obi-Wan qui est le druide, hein. C'était
oui, voilà. Ça marche à peu près.
Il était magnifique. Ça ressemble à rien. Déjà, on arrive, première scène du film, on ne sait pas, alors qu'on connaît l'histoire de Vercingétorix quand même, de quoi ça s'agite, où on est, qu'est-ce qui se passe.
Mais ils arrivent à nous faire douter de ce qu'on sait, surtout.
Alors, je vais pas vous le cacher, moi, il y a des moments où j'étais tellement larguée, je suis retournée sur Wikipédia en me disant, mais attends, c'est moi ou... Mais non, c'est le film.
Mais la magie de sa mort doit nous apprendre la leçon de son sacrifice.
Mais sans déconner, le druide, il avait pris de la bonne. Hein. Pardon, je suis désolée de le dire comme ça, mais waouh, il avait des répliques, mais des répliques. Alors, on avait ça mode où on se serait cru dans un petit trio, tu vois. Et de l'autre côté, on avait l'autre façon, Arlette Laguiller, Gauloise, Gaulois.
Oui, voilà. Vercingétorix dont le père meurt deux fois dans le film, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Oui, alors ça...
C'est-à-dire qu'il se fait cramer, puis 10 minutes après, il se fait tuer par une flèche.
Oui, alors ça, non, il reçoit la flèche et il se fait cramer. C'est dans l'autre sens.
Pardon, c'est dans l'autre sens.
L'autre sens. Oui, alors déjà ça, le mec, il est traversé par une flèche et après quand même, il est toujours debout. Il parle.
Mais non,
toujours.
Mais tu le vois mourir.
Oui, et tu le vois mourir. Oui, non, mais de toute façon, c'est pas logique. C'est voilà. Et après, il est toujours debout, il est toujours vivant, il trouve le moyen de nous tarter les oreilles encore 10 minutes avant de crever brûlé. Bref, celui-là, c'est bon, on l'a enterré, hein. Il réapparaît pas dans le film, quoique. Mais c'est pour vous dire la logique du scénario. Hein. Déjà, le mec qui a écrit le scénar, il était tip-top.
N'importe peu à la fin de gagner ce que ton ennemi va perdre ou de perdre ce qu'il va gagner. Et la suite à Vercingétorix qui répond, tes propos incompréhensibles ne m'aident pas.
Oui, et d'ailleurs, c'était la seule bonne réplique du film parce que nous non plus, ça ne nous a pas aidé. D'ailleurs, je vous annonce tout net que si Julai continue, on risque lui de le perdre avant la fin du podcast. Hein. Y a un autre truc, moi. Alors, bon, c'était quoi cette histoire de César qui demande au chef gaulois de venir l'aider à conquérir la Bretagne?
Alors, je sais que Vercingétorix et César ont été contubernalis.
Ouais.
Compagnon de chambre, mais en tout bien tout honneur.
Ouais, non, mais ça, c'est bien rendu dans le film. Il y a un truc entre eux.
Oui, c'est ça. Mais voilà. Alors, je sais qu'ils ont été contubernalis. Je sais que Vercingétorix a fait un tour du côté de chez César. Je ne sais pas quand. Donc, alors, on peut pas te dire.
Ça m'a largué.
Ça me paraît branque, hein, quand même.
Je me suis dit, attends, César qui essaie. Alors, c'est pour ça que c'est là, c'est à ce moment-là que ça m'a rappelé quand même l'histoire d'Arthur. Mais c'est, voilà, donc c'est César essaye de fédérer les Gaulois derrière lui pour leur demander d'aller conquérir de passer de l'autre côté de la Manche, conquérir Britannia en fait. Hein. Attention, quand je dis à Bretagne, je parle de Britannia, de l'autre côté, les enfants. Donc voilà, ça m'a laissé dans une perplexité, mais un abîme. Voilà.
Mais pourtant, il est toujours sage de penser que César sait toujours ce qu'il va savoir.
Oh punaise. Donc,
tu les as pas relevés, toi. Moi, quand je l'ai revu pour le podcast, j'ai tout relevé.
Non, mais déjà, moi, je l'ai vu une fois et j'ai du mal, moi, à me relever. Donc, continuons sur notre lancée. Donc, déjà, comme vous le voyez, il y a un haut niveau 1 de scénario, 2 de référence historique et puis 3 de réplique. Hein.
Ah non, mais les répliques, mais... Et puis même dans le scénario, enfin, t'as un moment où pour les Gaulois, pour se défendre, ils jettent des poules sur les Romains.
Ah oui, alors le coup des poules, ça j'ai pas... Alors je pense qu'il y avait une idée.
Les nanas
de...
se foutent à poil,
ouais.
En haut de truc. Ouais, elles montent leur nibar, parce que donc ça va foutre, hein, c'est tout bien connu.
Non mais fallait ramener du public, hein, mon gars.
Oui, ben, enfin, il est déjà parti le public, hein, c'est au bout de 45 minutes de film que ça arrive.
10 minutes de nichon, voilà.
Et il est dessus. On lance des poules.
Je pense, en fait, je crois que l'idée derrière ça, parce que il y a beaucoup de subtextes en fait, sauf qu'on n'est pas habilité à le lire parce qu'on n'a pas pris la drogue. Mais l'idée de ça, c'était de dire, ouais, les légionnaires de César, ils sont tellement affamés, si on leur lance des poules, ils vont aller chercher les poules plutôt que de se battre. Parce qu'on voit un mec attraper la poule et puis tu te dis, qu'est-ce qu'il va en foutre? Il est sous son bouclier en formation tortue. Il a quand même pas gardé la poule sous sa tunique pendant tout le combat, mais il prend la poule et il la met contre lui. Encore une abysse, tu vois, de perplexité, pareil.
Ah non, mais je suis d'accord.
Donc, c'était quand même assez magnifique. Voilà, j'aimerais aussi qu'on m'explique pourquoi les Germains avaient les cheveux orange, tous. D'où ça vient?
Mais c'est des gros barbares avec des haches aussi, je te rappelle.
Oui, d'accord, mais moi je veux bien, mais tout ce que vous voulez, mais pourquoi ils ont les cheveux orange? D'où on a vu que les Germains avaient tous les cheveux orange.
Je sais pas, ils sont roux, les Germains. C'est connu, ça, non?
Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire, je sais pas, mais voilà, c'est, j'ai été, voilà, ça m'a interpellée, je me
Non,
suis
mais je
dit,
suis d'accord avec toi, tous les Germains rouges, c'est d'un cliché, mais
non,
monumental.
mais c'est surtout, il n'y a même pas de nuance, ils étaient tous teints en roux carotte.
Ah non, oui, je suis d'accord.
Pourquoi? Pourquoi
Mais
le roux orange?
parce que... Orangina rouge.
Ah, mais il y a quelque chose, hein. Donc voilà, donc ça m'a complètement perturbée. Voilà, je tiens
Et puis,
à le dire.
il faut dire aussi que quand on parlait de Bulgarie tout à l'heure, le figurant bulgare vaut le détour là-dedans, ou quand t'as des figurants qui courent devant la caméra, qui se demandent quand même... pourquoi ils sont là? Enfin, je cours, je regarde la caméra. Ah oui, merde, ça tourne. Il faut que je continue à courir. Ils font argue en resserrant l'aisselle et en mettant la lance justement sous l'aisselle. Enfin, on peut pas quand même.
J'en ai vu un, il m'a traumatisé parce que lui ça se voyait vraiment. C'est donc au moment où il y a les porte-drapeaux là qui courent, et le mec il est comme ça, t'es en train de courir, et d'un coup il se retourne, mais derrière son pote en souriant, genre il faut continuer à courir ou pas.
Oui. Et puis quand on te filme le champ de bataille avec les morts, t'as les gars qui ouvrent les yeux, hein, et qui les referment vite parce qu'ils savent qu'il y a la caméra au-dessus.
Ah mince, c'était pas fini. Ah mais vous, voilà.
Et cette charge de l'armée romaine, où tout ce qu'on a, c'est 30 pauvres pelés, sauf qu'on va te les filmer sous tous les angles pour
Ah
te
ouais,
faire
non mais
croire qu'il y en a
alors
10.
ça, oh mais ce plan, oh, mais j'ai cru qu'il allait jamais s'arrêter, et de dessus et de dessous et en version aérienne et sur le côté, ça va,
Mais
on a
c'est toujours les
compris.
30 mêmes mecs qu'on te monte au même endroit.
Ouah, non, il y a eu, vraiment eu un voilà, c'est un grand moment, grand moment, je pense, là, au niveau des plans. On va s'arrêter du coup un petit peu aussi sur le casting, parce que ce serait dommage de pas leur mettre un petit coup de baramine. Bon, alors bon, Christophe Lambert, comment dirais-je?
Alors, Marc Toulec, dans Ciné Live à l'époque, a dit que crédible dans le rôle de Vercingétorix, Lambert l'est à peu près autant que John Wayne dans celui de Gengis Khan, une des erreurs de casting les plus drôles de l'histoire du cinéma.
Ouais, non, mais voilà. Non, moi, il m'a fait l'effet, franchement, les trois quarts du temps, de pas savoir, un, ce qu'il faisait là, ni où il était. Et très honnêtement, j'ai eu l'impression d'avoir un mec qui avait fumé un chichon et qui était dans un bad trip, t'sais. Genre, oh, les légions romaines. Il est un vide dans ce regard, mais c'est impressionnant.
Ah mais c'est ça.
Et mono-expressif, hein.
Ah non
Donc,
mais mais là on est quand même allé très loin. Hein. Enfin.
On va rendre hommage aussi à Klaus Maria Brandauer qui finit pas non mais voilà, bon, je suis là, je sais plus trop
Coup de bol, je suis
pourquoi.
César.
Je suis César, et alors qu'il dit ses répliques, mais avec la
Non,
même
il ne les dit pas en français. Hein. Elles ont été tournées en anglais ces répliques. Donc c'est un doublage qui est très mauvais, mais c'est un doublage.
Ouais, alors c'est sûrement, alors ça explique déjà bien des choses, ça me rassure pour lui d'ailleurs, mais alors une placidité dans l'expression, il est en train de constater sa défaite avec de la même façon qu'il dirait, tiens, il y a des mecs dans la rue.
C'est ça. Mais j'ai les critiques un peu sous les yeux, je les ai trouvées sur la fiche Wikipédia. Enfin, t'en as une qui est quand même géniale. Vercingétorix, c'est tout simplement la nullité 24 images par seconde.
Et alors franchement, on est obligé de vous citer des critiques parce que je pense que vous pourriez pas nous croire tellement, voilà.
Et oui.
Bon,
Et ça, c'était dans Chroniqueur, c'est pas n'importe quoi. Enfin, l'internaute a aussi parlé d'un film culte disant que spécialiste du navet millésimé, Christophe Lambert repousse les limites de l'exercice.
Ah bah oui là non mais on les a dépassés, tu vois, on est passé dans une galaxie du navet, mais fort fort lointaine.
C'est-à-dire que si j'ai poussé June à voir ce film, c'est parce que pour moi, c'est le nanar le plus ultime. Je n'en ai pas encore trouvé un seul qui soit pire que celui-là. Et j'ai vu Sharknado.
Ouais, franchement, il y a des moments où je me demande, voilà, si tu m'en veux. très honnêtement.
Non, parce que celui-là, il fallait le voir quand même.
Je vais terminer sur Inès Sastre, alors qui est très jolie, mais qui ne sert strictement à rien.
Oui, voilà.
Mais alors, à rien. Je vais pas revenir sur la gamine au début dans le film qui me paraît bien dévergondée avec les histoires qui se passent entre les filles et les garçons qui l'emmènent dans la forêt, tout ça, tout ça. Bon, on va pas en parler. Oh. Et puis surtout, mais bon, il y a les scènes. Mais il y a des scènes. Oh, remarque, c'est raccord avec le reste du film, c'est what the fuck. Voilà.
Hein. Ah oui, 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 entièrement.
Donc les scènes vers Saint-Gétorix et Pona, c'est what the fuck, c'est bon bah voilà, c'est raccord avec le reste du personnage. Non mais c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a un monsieur, alors je ne sais pas son nom, mais par contre il m'a fait kiffer tout le film parce qu'il avait des couettes. Il avait trois couettes. On le voit revenir souvent et il m'a omnubilé parce que ça lui faisait vraiment une tête de con. On peut le dire ça?
Oui, on peut le dire.
Ça m'a vraiment rappelé la réplique dans Aérocorp, au pied du serpent, au pied du le loup vous ouvrira la porte quand vous aurez des têtes de con. Bah voilà, ça là, la porte a été ouverte. Hein. Bref, c'est assez magique. Ce qui est magique quand on s'arrête sur le casting, hein, comme on disait là, c'est que on a vraiment une impression de rien à foutre général.
Oui, c'est ça.
Où tout le monde se dit non mais on va le tourner, il faut qu'on le fasse, il faut que ça se fasse vite. Hein, allez, on y va, on en termine parce que voilà. Et alors bon, faut dire qu'ils sont pas aidés les pauvres gars, parce que ils sont quand même nantis niveau crédibilité, c'est dur, mais de postiche à décoller le papier peint.
Je peux reciter une autre critique ?
Je t'en prie, fais-toi plaisir. C'est
Première, c'est une critique qui est issue de Première. Gérard Delorme critique Christophe Lambert en disant qu'avec ses postiches variés, il ressemble plus au bassiste de Spinal Tap qu'à un chef gaulois.
Non mais ça ressemble vraiment à rien quoi. Puis tu dis, il n'y a aucun chef gaulois qui a porté ça, mon gars.
Ah non mais c'est... Et on tombe on tombe dans ce film au second degré, mais tu tombes tout de suite en fait.
Ah bah il vaut mieux, hein, parce que sinon tu survis pas, hein, très honnêtement. Moi j'ai essayé, hein, mais... C'est impressionnant. Alors, je vais pas mentir, les enfants, je vais être très honnête avec vous, en tant que dragon, hein, c'est quelque chose que je dois faire. Il y a quand même deux fois où je me suis endormie. Et bon, je me suis réveillée. Déjà, alors le plan était pas fini, c'était toujours le même. Donc, j'ai eu l'impression d'être tombée dans un vortex, tu vois, bloquée dans une ligne temporelle. Bah, notamment le fameux plan avec l'armée romaine, hein.
Ah oui, celui-là.
Voilà. Bon, ça a pas changé grand-chose à ma compréhension du film, hein. Avant, après, toujours pas un broc, hein. Voilà. Remarque, j'allais te dire, j'ai un peu l'impression que c'est Perceval et Caradoc qui ont écrit le scénario, hein.
Bien, ça pourrait, ouais.
On dirait Perceval qui raconte une de ses aventures. Il y a des vieux, il y a un druide.
Tu sais que c'est débile, mais complètement inattendu.
Ah, là, pour le coup, c'était inattendu. On va s'arrêter, du coup, on parlait des postiches et des costumes. Je pense que c'est le point d'orgue de ce film. Et je pense que sur Allociné, ils ont bien fait de mettre en anecdote de tournage qu'ils avaient fait 3500 costumes en 4 mois. Ça t'explique la qualité du costume.
Bulgarie.
Ah ouais, puis... Oui, je pense qu'ils ont fait ça dans une maison de retraite, bulgare.
Mais tu vois, j'en suis encore mort de rire. Ça faisait 7-8 ans que j'avais pas vu ce film. Mais j'en suis encore mort du rire à l'idée de l'avoir vu cette semaine, quoi.
Ah non, mais non, bah, je suis, enfin, vous sentez mon affliction, bon, c'est normal. Après, c'est drôle, je vous promets, à voir, c'est drôle. Mais faites-le avec de la bière, du pop-corn, des copains,
Non, mais voilà, il faut être à 3-4 devant et vraiment regarder ce film et écouter les dialogues. Parce que c'est quand même le meilleur de ce film.
Ah bah, le druide qui dit, fous-moi un coup de pied au cul,
Non, il dit botte-moi le cul.
Botte-moi le cul. Mais en fait, c'est pas tellement la phrase en elle-même, c'est la façon dont il dit botte-moi le cul. D'un coup, ça sort du cul d'un poney, du coup, faut bien le dire comme ça. Il dit, mais pourquoi il lui dit ça, mais qu'est-ce qui se passe? On est passé dans un navet homo-érotique ou de quoi c'est? Non, botte-moi le cul, il y a des Romains qui arrivent.
Et voilà, ouais. De grandes répliques comme à cause de votre stupidité, César arracherait la victoire des mâchoires de la défaite dans lesquelles je le tiens.
Et
tu te dis, les mecs qui ont écrit ça, ils étaient quand même sacrément tarés, quoi.
Bah, ce qui est bien, c'est que moi, voilà, quoi, tu passes parfois 10 minutes à essayer de comprendre la réplique, quoi. Tu moulines.
Mais alors, le problème, c'est que je veux bien que tu passes 10 minutes à essayer de comprendre la réplique, mais c'est pas le point central. C'est comme des répliques comme ça, il y en a toutes les deux minutes. Et bah t'en loupes cinq, t'en as comprendu.
Alors, il y a déjà ça, donc du coup, ça aide pas du tout la compréhension du scénario, qui est lui-même sérieusement... sérieusement rien. On dirait mon fils qui a monté une tour en capla, quoi. Voilà. Pour le dire comme ça.
C'est-à-dire qu'il a aligné deux trucs, quoi.
Il a vaguement mis des trucs, tu vois, les uns au-dessus des autres, tu vois, pour que ça tienne, mais il y a des trous. Et si tu souffles un peu, ça tombe. Voilà. C'est voilà le scénario, pareil. C'est donc beau. Alors quand déjà
t'as sauf que là t'as pas besoin de souffler.
Ah non, il y a mais le Obi-Wan Kenodrix là, mais sans rire, mais alors lui, mais alors, le champion de la réplique de merde. Hein. Le.
Ah non.
Je pense qu'ils lui ont fait une fiche avec. En fait, il a une fiche à mon avis avec toutes les répliques et il les sort dans un truc aléatoire. On lui a dit toi ton dialogue tu fais comme tu veux.
Non mais je pense que le pire dans cette histoire. C'est qu'il est perçu comme le sage et les mecs qui lui ont écrit ses répliques imbitables, c'est le mec qui a voulu écrire le sage.
Ouais, alors je te rappelle quand même que, comme tu l'as dit, Christophe Lambert lui répond qu'il il ne l'aide pas beaucoup avec ses phrases incompréhensibles. Donc il y en a quand même un qui a eu un éclair de lucidité à un moment, qui s'est dit non, c'est pas possible.
Et c'était pour eux le moment second degré du film.
Voilà, c'est oui, je pense, c'était le moment humoristique. Après moi les poules, c'était déjà un moment humoristique en soi.
Ah bah ça c'est.
C'est voilà. En plus des trucs en plume d'autruche et des germains roux et bon, bref. C'est un joyeux mélange. Écoutez, je pense que Julie a raison, il faut le voir, mais rien que parce que ça peut vous faire relativiser des tas de films au cinéma.
Oui, voilà, mais il faut savoir que voilà, petite anecdote de tournage aussi. Déjà, quand Gaulois, Christophe Lambert a raconté qu'apparemment il a dit au réalisateur que je pense pas que c'est bien de dire gauloise gaulois comme De Gaulle disait française français, et apparemment le réalisateur lui répondait mais d'où tu crois que ça vient le française français.
C'est bien, ça montre aussi que Christophe Lambert lui aussi a eu un rare moment de lucidité.
Enfin bon, apparemment c'était un rôle irrefusable selon lui.
Oui, on peut voir ça comme ça. Écoute. Je pense que c'est une bonne conclusion de le dire comme ça. Ça restera dans l'histoire du cinéma. Clairement.
Il faut le voir. Mais moi, je maintiens ça, par contre.
Alors, ça tombe bien parce que vous pouvez le trouver en entier sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans l'article, hein, vous inquiétez pas.
C'est là qu'on
que...
l'a vu.
Voilà, je m'en voudrais de vous épargner ça. Pensez bien à moi. Enfin, surtout à Julie. D'ailleurs, je vais vous laisser une adresse mail pour pouvoir l'insulter. N'hésitez pas. Mais
alors sur... l'adresse c'est june@junency.com.
Sachez que oui, faut le voir parce que de temps en temps, voir un gros navet effectivement, ça a le mérite de relativiser certains films. Tu vois, la dernière fois je caillassais Kong. Bon bah après Vercingétorix, je relativise sérieusement quoi.
Tu m'étonnes.
C'est voilà. Donc ça aide un peu à rétablir l'échelle des valeurs, revoir les mesures, les poids par rapport à notre jugement. Donc, je trouve ça pas mal. Franchement, c'est une expérience intéressante. Par contre, c'est un petit côté au-delà du réel, quoi.
Ah oui, ça oui.
Eh ben écoute, mon cher Julie, je pense qu'on peut dire que c'était notre séance navet, notre séance nanar, qui a montré notre courage et notre abnégation au service du cinéma.
Oui, c'est... On est un peu les Aurélie Filippetti du cinéma mauvais.
Ouais, ça y est, il commence à balancer les insultes. Et je ne terminerai que sur cette phrase que tu pourras compléter avec une ultime citation du film si ça te fait plaisir. Auditeur, auditrice, on se retrouve dans 15 jours.
Si tu sais ce que tu veux, ton adversaire le voudra aussi.